7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr. Aujourd'hui, être féministe dans le monde arabe. Charlotte Bien-Aimée, journaliste, a enquêté sur cette jeune génération de féministes en Tunisie, en Égypte, mais aussi au Maroc, en Algérie. Elles ont entre 18 et 35 ans, voire un peu plus. Et à la différence des pays du Nord, leur combat politique commence souvent dans leur propre famille. Refuser par exemple un mariage arrangé pour étudier, divorcer, vivre seule dans une ville, autant d'événements qui conduisent au militantisme. Alors qui sont-elles? À quoi aspirent-elles? Quel est leur regard aussi sur les révolutions arabes 5 ans après? Nous recevons également dans le studio l'activiste marocaine Ibtissam Lardar alias Betty, qui est en fait encore coincée dans le RER mais qui arrive dans quelques minutes et qui a cofondé le mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc. Et puis également parmi nous Nadia Leila Aissaoui, sociologue. Bonjour.
Bonjour.
Nadia Leila Aissaoui, vous êtes secrétaire du Fonds pour les femmes en Méditerranée. C'est un fonds qui a été créé il y a quelques années.
Hein. Oui, créé en 2008.
Voilà, donc avant les révoltes arabes. Vous nous direz à quoi sert ce fonds et ce qu'il fait exactement pour faire avancer les droits des femmes dans les pays arabes. Nous entendrons aussi la féminité américano-égyptienne Mona El Tahaoui. Nous avions diffusé en fait un entretien avec elle à l'automne dernier lors de son passage à Paris. Elle a publié Foulard et Hymen, pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle. Et quant à vous, les voisins et voisines, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous appeler pour réagir ou pour questionner nos invités en direct, au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos commentaires sur les réseaux sociaux.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Charlotte Bien-Aimée et Nadia Leila Aissaoui, peut-être un mot sur l'actualité. D'abord, le 31 décembre, plusieurs centaines de femmes, vous le savez, ont été agressées sexuellement en Allemagne, à Cologne, Hambourg. C'est devenu une affaire d'État, hein, ces agressions, et même une affaire européenne parce que liée à l'immigration. Que vous inspire à toutes les deux ces événements? Est-ce que la sécurité des femmes est devenue une question politique à part entière pour vous, Nadia Leila Aissaoui?
Oui. Je dirais que la première impression, c'est l'effroi quand même, hein, c'est l'horreur que des femmes soient sexuellement agressées dans la rue. Malheureusement, ça n'est pas nouveau. C'est un sujet qui revient dans l'actualité et qui est médiatisé. Alors, on s'interroge aussi pourquoi c'est tant médiatisé, puisque là on s'aperçoit quand même que on culturalise davantage cette question par rapport aux agresseurs et on focalise moins sur la question des violences dans l'espace public, donc que subissent les femmes depuis toujours en Europe également. Donc oui, de l'effroi, les responsables devraient être bien sûr sévèrement punis. Je veux juste mettre en garde sur les interprétations culturalistes qui sont derrière cet agenda qui pointe du doigt les réfugiés en tant que agresseurs
ou en tout cas les migrants avec une instrumentalisation politique bien sûr, mais est-ce que finalement le droit des femmes, Charlotte Bien-Aimée, n'est pas devenu le clivage le plus symbolique entre les sociétés du Sud et celles du Nord aujourd'hui?
Clivage, moi je pense plutôt, par exemple, là tout de suite, par rapport à ce qui s'est passé à Cologne, à des possibilités de rassemblement. Parce que par exemple, il y a énormément de choses qui sont faites autour du harcèlement sexuel dans la rue, dans tous ces pays, que ce soit l'Égypte, le Maroc, la Tunisie. Elles sont, voilà, j'ai rencontré des jeunes femmes qui montent des pages dédiées à ça, et qui dénoncent les harcèlements dans les rues, donc qu'elles subissent dans la rue. Mais elles me disent aussi que ces initiatives existent aussi au Canada, en France, partout dans le monde et que elle se retrouve avec une Française comme avec une Libyenne comme avec quelqu'un d'Afrique noire. Enfin bon, donc je pense plutôt que
il y a moins de chances d'être harcelée dans la rue à Cologne qu'au Caire.
Peut-être, mais ça, c'est quand même une réalité. Et encore, je sais même pas. Je sais pas. Il y a énormément de témoignages tout aussi forts venant de jeunes femmes européennes. Alors oui, bien sûr, dans notre imaginaire et puis la réalité.
Ça peut pas être un des nouveaux curseurs pour mesurer le développement d'un pays finalement au-delà du PIB.
Oui, bien sûr, c'est vrai que la question des femmes, c'est nécessairement, est un curseur pour mesurer le développement du pays.
Nadia, Leïla, Issaoui.
Je suis d'accord, c'est un curseur. Cela dit, je crois que...
C'est nouveau ce curseur, en tout cas pris en compte par les politiques.
Oui, parce que les femmes médiatisent beaucoup plus la cause, le font de manière très intelligente, très pertinente, et je crois qu'il y a un moment où on peut plus se taire sur ce genre d'injustice qu'elles vivent dans l'espace public. Récemment, une étude est sortie en France qui dit que 100% des femmes disent avoir été harcelées dans la rue. C'est très parlant, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, le clivage entre le Nord et le Sud, je crois qu'il est plus dans le fantasme, puisque les sociétés européennes vivent aussi beaucoup de discrimination, en tout cas les femmes qui y vivent. Nous, en travaillant au niveau du Fonds pour les femmes en Méditerranée, on voit très bien la régression des conservatismes et des intégristes religieux, qu'ils soient musulmans ou catholiques en Europe, menacent les droits des femmes, que ce soit la question de l'avortement, que ce soit la question du viol qui est tabou. Toutes ces questions-là posées en Europe se posent aussi dans les pays du sud de la Méditerranée.
Malgré l'avancée
donc
des textes,
c'est plus
parfois.
Un point commun, c'est plus quelque chose qui rassemble les femmes dans les sociétés qu'un point de clivage entre les sociétés.
Après, ce qui est certain, c'est que beaucoup de ces jeunes féministes disent qu'il ne peut pas y avoir de démocratie, la révolution ne peut pas aboutir tant qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme, ça c'est certain. Et donc là, il y a effectivement.
Alors, justement, vous avez rencontré, vous avez choisi de donner la parole à une quarantaine de femmes, pas nécessairement d'ailleurs les plus médiatisées. Vous publiez Féministes du monde arabe, à la suite d'une série de reportages radio d'ailleurs pour France Culture. Elles sont, ces femmes, ces féministes, la deuxième, voire la troisième, voire plus d'ailleurs, génération de féministes dans le monde arabe.
Oui, leur combat n'est pas nouveau, et bien loin d'être nouveau. Le féminisme dans le monde arabe a commencé en même temps que, enfin, même à la même époque que le féminisme européen, occidental, si on peut dire comme ça. Donc c'est pas nouveau. Mais alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un renouveau peut-être des luttes, des thèmes, des thématiques, des façons de lutter. Mmh. Bien sûr qu'Internet a changé la donne, la révolution a mis en avant certains combats, et elles sont aussi dans une volonté de renouvellement, de façon de militer au sein des structures. Parfois, il y a une opposition entre ancienne génération et nouvelle génération. Elles ont envie que ça soit...
Qu'est-ce qu'elles ont de différent, ces féministes, aujourd'hui? Si on reprend, vous citez au début du livre, la première féministe arabe qui est égyptienne et qui s'appelait Houda Charaoui, qui en 1923 revient au Caire par le train et qui arrive sur le quai de la gare. Il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés et qui retirent son voile en public. On est en 1923.
Mm-hmm. Peut-être pas envie de faire la comparaison avec 1923, mais en tout cas avec les associations installées. Je pense à l'Algérie, par exemple, des associations qui sont très très fortes depuis bien longtemps. J'ai rencontré des jeunes femmes qui sont dans une petite ville très conservatrice, en Algérie, qui se rassemblent ensemble sur la petite place du village. Certaines sont voilées, d'autres ne sont pas voilées. Ça déjà, c'est une question peut-être nouvelle. Et elles ont envie de faire différemment, c'est-à-dire d'avoir une structure plus horizontale, de laisser la parole aux jeunes, de parler du harcèlement sexuel, ce que ne font pas forcément les associations. Et c'est ça qu'elles, peut-être que la différence en ce moment, c'est ça, c'est qu'elles ont envie de renouveler les modes, les façons de militer. Et elles ont envie que ça soit un peu plus horizontal, je dirais, avoir la parole, leur place à elles.
Et Ibtissam Largar, alias Betty, vous préférez qu'on dise Betty d'ailleurs, ou pas?
Bah, c'est pareil. Mais Betty, oui,
vous venez d'arriver dans le studio, soyez la bienvenue.
Merci
vous
beaucoup,
êtes une
bonjour.
Activiste marocaine, féministe. Les femmes ont été utiles politiquement, on le disait, d'ailleurs au moment des mouvements pour la décolonisation, pour la libération de ces pays, pour les indépendances. Elles ont été utiles dans les révoltes arabes. Elles font souvent passer leur intérêt de genre, d'ailleurs, après les intérêts de la nation. Ça a été le cas pour la décolonisation, l'accès à la démocratie, à la liberté d'expression pour les printemps arabes. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Ibtissam Largar, que cette abnégation, finalement, n'a pas été tellement payante?
Moi, je pense que par rapport aux révolutions dites arabes, même si j'aime pas trop ce terme.
Pourquoi vous l'aimez pas, ce terme?
Bah parce que par exemple moi je ne suis pas arabe, je suis amazigh, et donc du coup on parle tout le temps du monde arabe, on parle des arabes, et donc du coup bah c'est problématique pour les amazigh, et sachant qu'en plus le Maroc était amazigh avant
tout à fait enfin, et d'ailleurs des mouvements féministes turcs pourraient tout à fait se reconnaître dans les mouvements du Maghreb par
exactement,
exemple
exactement hein voilà par exemple donc, c'est pour ça donc je rebondissais juste sur le terme arabe si je puis me permettre. Moi j'ai un reproche en tout cas par rapport au Maroc, parce que c'est là que je milite et que j'ai milité durant cette révolution, donc cette révolution dite arabe, c'est que effectivement les droits des femmes, pour moi, ça fait partie de la transition démocratique. Nous ne pouvons pas militer en invoquant les mots liberté, égalité, dignité, justice sociale
pour la moitié de la population.
Voilà. C'est et donc ça. Du coup, ce que je peux reprocher, c'est que souvent, malheureusement, l'égalité entre les femmes et les hommes est souvent reléguée au second plan. Pas prise au sérieux, et donc c'est vraiment un problème quand on est féministe, quand on est militante et militante pour les droits des femmes. C'est complètement déconsidéré. On se retrouve un petit peu isolé quand nous expliquons un petit peu, quand nous mettons en avant nos revendications.
Oui, des revendications qui ont trait à la vie quotidienne, hein, bien souvent.
Complètement, la vie quotidienne.
Donc pas un sujet politique. D'une certaine manière.
La vie quotidienne, c'est exactement. Le personnel est politique, comme vous le savez, dans le combat féministe, c'est quand même un des slogans fondateurs.
Mais si on reprend les parcours de ces femmes que vous avez croisées, Charlotte Bien-Aimée, elles ont d'un pays à l'autre, d'une famille à l'autre, évidemment des histoires très différentes, mais je disais en introduction que finalement leur militantisme commence dans leur propre vie à elles. Ce qui n'est pas le cas des hommes.
Ce qui n'est pas le cas des
hommes.
Mais
c'est-à-dire que c'est une libération pour leurs conditions à elles, dans leur propre famille, vis-à-vis d'un père, vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une maman qui veut organiser un mariage. C'est pas toujours le cas dans 100% des cas, mais souvent.
Dans beaucoup de cas, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que voilà, c'est l'illustration même du slogan le personnel est politique. Donc par exemple, Shahinaz, la première révolte qu'elle a eue, donc en une égyptienne, c'était elle avait 13 ans, sa petite chambre donnée sur la mosquée, elle entendait toute la journée l'imam qui répétait qu'on allait pendre les femmes par les cheveux si elles se voilaient pas, on allait pendre les femmes par les seins si elles n'obéissaient pas à leur mari, on allait pendre les femmes par les pieds si. Et elle a décidé d'écrire une lettre et elle est allée porter la lettre à l'imam et c'était son premier acte de rébellion. Et après, elle a refusé elle a été mariée, elle a réussi à divorcer d'un mariage arrangé, voilà. Et beaucoup d'histoires commencent comme ça, par leur propre libération, leur petite révolution, même, enfin leur grande révolution, mais en tout cas leur révolution personnelle, qui ensuite les amène à militer. Alors, certaines n'ont pas eu forcément besoin d'avoir des aussi grands combats personnels, mais dans beaucoup de cas, c'est comme ça que ça se passe.
Ça conduit aussi souvent à la rupture avec la famille. Ça, c'est quand même extrêmement douloureux de rompre avec sa propre famille.
C'est extrêmement douloureux, en effet, mais parfois c'est salvateur aussi. Donc il y a un effet de cette prise de conscience qui s'opère, c'est libérateur et ça permet aux femmes de réaliser premièrement qu'elles sont pas seules puisque elles rencontrent d'autres femmes à la fois dans la famille mais aussi à travers les réseaux sociaux. Là, ce qu'on a vu par exemple pendant les révolutions ou même avant, hein, je dirais, ça n'est pas apparu pendant les révolutions, ça grouille. Déjà, c'était sous-jacent dans les sociétés. Les femmes qui prennent conscience de leur oppression se sont retrouvées dans les réseaux sociaux à échanger, à s'organiser, à échanger leur expérience et leur histoire de vie, qui a fait que elles ont formé une espèce de parole commune. Et c'est aussi une façon de sortir de l'isolement.
Et de nouvelles familles. Une forme de nouvelle famille.
Et une forme de nouvelle famille, en effet.
Je dirais qu'il y a une force aussi qu'elles acquièrent après avoir dit non à leur famille, c'est qu'après, il y a une peur qui est cassée, comme pendant la Révolution, la peur est cassée, et donc une fois qu'on a dépassé ça, j'ai l'impression, tu me diras bêtise si je me trompe, mais qu'il y a quelque chose, il y a une force qui peut pas être, qui est là, et quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, comme on a réussi à casser avec la famille, ensuite on casse avec d'autres choses, Dieu, pourquoi pas, le patron, pourquoi pas, quoi qu'il arrive, je les ai senties pleines de force, d'espoir, de certitude, même si c'était difficile. Oui. Henda qui dit, Henda Shenawi, qui a les cheveux frisés, qui est révolutionnaire avant tout, elle va dire, c'est difficile tous les jours parce que je sais que je suis dans le vrai, je sais que j'ai raison, mais ma famille me dit non, tu n'as pas raison. Donc c'est
peut-être
dur,
quelques
mais
mots sur son parcours déjà, d'où elle vient.
Alors, Henda, elle vient d'un quartier, l'Ariana, à Tunis, qui est pas loin de l'aéroport. Elle est restée très longtemps, moi, quand je l'ai rencontrée, c'est une amie très chère à moi maintenant. Je l'ai rencontrée, donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle, dans sa famille. Elle avait une petite chambre en plein milieu du salon, enfin près du salon, donc toute la famille passait par là. Elle a pas vraiment d'intimité. Et en même temps, elle milite depuis très longtemps pour les droits humains de façon générale et pour les femmes. Mais en même temps, elle était toujours un peu rattachée à sa famille. J'ai plusieurs fois demandé, mais pourquoi tu t'en vas pas là maintenant? T'as 28 ans, t'es très militante, elle est journaliste, elle s'en va dans les campagnes avec les cheveux dénoués, elle explique à n'importe qui pourquoi elle fait. Bon, elle est vraiment très forte et pourtant elle restait dans sa famille. Donc il y a toujours, bah oui, mes mamans, et puis je vais leur faire de la peine, et puis ils ont besoin de moi. Et puis là récemment, il y a un mois, elle a déménagé, elle a pris un appartement toute seule.
Donc
y a,
voilà, seule à Tunis.
À Tunis, voilà. Mmh. Donc il y a des étapes comme ça qui se franchissent.
Non, il faut quand même le préciser, c'est pas une évidence.
C'est pas une évidence.
Une fille seule dans une grande ville, au Maroc, en Algérie, y compris en Tunisie d'ailleurs. Betty.
Bah les inégalités de genre sont quand même bien ancrées, quoi. Donc ça c'est problématique. Donc effectivement, il y a des jeunes femmes et des femmes qui arrivent à travers leur révolution personnelle finalement à s'émanciper. Mais on constate malheureusement que ces inégalités sont quand même bien ancrées. Elles sont quand même sous-tendues par des schèmes comportementaux et des références socio-culturelles et religieuses qui font que les femmes sont toujours confinées dans leur rôle de reproduction.
Vous, ça n'a pas été le cas, Betty, parce que vous êtes fille d'un militant. Comment vous avez grandi? Quel a été votre parcours pour arriver à cofonder le mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc? On en reparlera, hein, bien sûr, mais qui est quand même un mouvement assez radical.
Oui, on peut dire ça, radical, mouvement avant-gardiste, je préfère, très avant-gardiste peut-être, mais un mouvement universaliste. Donc effectivement, bah moi, j'ai eu la chance au sein de ma petite famille d'avoir l'éducation que j'ai eue, à savoir la liberté, on m'a inculqué les valeurs de la liberté, notamment la liberté des femmes, mais autour de moi c'est quand même compliqué. J'ai quand même grandi dans une société marocaine plutôt conservatrice, je parle du milieu social, que ce soit le voisinage, etc. Et donc en tant que petite fille déjà, je me sentais très souvent discriminée par rapport au, je vais donner un exemple un peu banal, les jeux par rapport aux garçons et aux filles. Donc il y avait des choses que je ne pouvais pas faire parce que j'étais une petite fille, puis après il y avait des choses que je ne peux pas faire en tant qu'adolescente. Donc je me suis quand même, enfin là, j'ai quand même senti cette discrimination, je l'ai quand même subie, et c'est ce qui a fait en moi la rebelle que je suis, j'ai envie de dire. Et effectivement, l'éducation, le fait que mon père ait été militant m'a beaucoup aidée à me rebeller et à dire non, comme Charlotte le répète souvent, pouvoir dire non, donc dire non aux garçons, dire non aux voisins, hommes, dire non, voilà. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'assez, en ce qui me concerne, plutôt simple. Voilà, parce que j'ai la personnalité que j'ai, mais on ne peut pas cacher que c'est très très difficile et très compliqué, et puis surtout qu'il y a les lois qui sont également, il n'y a pas que les mentalités, mais il y a également les lois qui sont pas du tout dans le sens des femmes, quoi, qui sont plutôt contre les droits des femmes.
Oui, Charlotte.
Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur le mouvement radical. Betty, je l'ai rencontrée au même moment qu'une autre militante qui s'appelle Jeanne, et elles ont eu une discussion que je retiendrai toujours, parce que après, au-delà des parcours personnels, après, donc, on va militer. Mais comment on milite? Et puis, comment on milite dans ces pays-là? Est-ce qu'il faut y aller fort? Est-ce qu'il faut, non, faire attention parce qu'il faut peut-être pas te choquer? Donc, il y a eu Jeanne, par exemple.
Il y a un gros débat entre femmes sur les moyens, effectivement,
les moyens,
de parvenir à une émancipation des femmes.
Jeanne, hein, comprenait pas certaines.
Voilà. Oui, c'est ça.
Vous débattez, vous n'êtes pas d'accord du tout.
Moi, je suis pour une révolution sexuelle. Il ne peut pas y avoir de révolution sans révolution sexuelle. Donc, c'est souvent très mal compris, cette question de révolution sexuelle.
Nadia Leila Aïssa, oui, c'est compliqué aussi au sein du Fonds pour la Méditerranée, ces débats-là entre femmes.
Ben, c'est des débats que nous accueillons et qui font aussi la diversité des approches. Je crois que le mouvement des femmes a besoin aussi d'avoir des approches différentes.
On va en reparler justement. Ce sera juste après le flash. Vous restez toutes les trois avec nous, Charlotte Bien-Aimée, Nadia Leila Issaoui, Ibdissam Largar. Lashgar, vous avez raison. Et on se retrouve dans 3 minutes.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons des féministes dans le monde arabe avec votre livre Charlotte Bien-Aimée. Vous êtes journaliste et vous avez publié une enquête sur le sujet, principalement avec une quarantaine de femmes en Tunisie, en Algérie, en Égypte, au Maroc. Nous donnons également la parole à Ebtissam Lajgar du mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc, le Mali. Nadia Leila Aissaoui, vous êtes sociologue, membre du fonds pour le secrétaire d'ailleurs du fonds pour les femmes en Méditerranée. Je vous ai coupé juste avant le flash, je m'en excuse Nadia, mais justement on parlait de grosso modo les femmes qui militent ont un objectif commun, d'ailleurs pas toujours des objectifs communs, mais en tout cas c'est vrai que ce qui diffère, ce sont vraiment les moyens d'y parvenir.
Bien sûr, il y a une diversité dans le mouvement des femmes, on s'en cache jamais, et encore, je trouve que ça fait partie de la richesse de ce mouvement. Ce qui est important, en tout cas au niveau du Fonds pour les femmes en Méditerranée, qui travaille justement à renforcer le mouvement des femmes, surtout le bassin méditerranéen, hein, pas seulement les pays arabes, on travaille aussi dans les Balkans, on travaille... Pour nous, le plus important, c'est de trouver ce qui rassemble les femmes. Qu'est-ce qui est le plus important et le dénominateur commun dans les luttes? C'est ça qui nous fait avancer. Et sans tenir compte de ce qui nous sépare et de ce qui...
Qu'est-ce qui revient le plus souvent, justement?
Ce qui revient le plus souvent, c'est la question des droits. Effectivement, hein,
moins d'injustice, plus de reconnaissance, plus de possibilités de s'émanciper.
Oui, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur l'accès au travail, sur l'autonomie financière, sur l'indépendance, comment dire, la liberté de disposer de son corps. Toutes ces questions-là, on est toutes d'accord au niveau du mouvement des femmes. Ce que je veux dire, c'est que nous, il faut pas imaginer non plus que toutes les militantes féministes sont des femmes en rupture avec leur famille, oppressées. On n'est pas du tout dans une approche victimisante des femmes. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que nous avons
refusé. D'ailleurs,
on refuse, bien que nous reconnaissions vraiment la qualité de, enfin, le statut de victime à ces femmes-là. Mais on considère aussi que elles sont vraiment actrices de leur destin. C'est là-dessus que nous avons soutenu vraiment spontanément le projet de reportage de Charlotte, parce que on est convaincu que c'est vraiment ces femmes-là qui travaillent au quotidien, qui luttent à leur façon, qui sont des vraies héroïnes, hein, cette jeune génération qui porte un combat à leur niveau, qu'on n'entend pas souvent, on ne donne pas la parole à ces femmes-là, on regarde plus celles qui sont dans le côté un peu tragique de l'oppression, alors que celles-là, elles ont un horizon, elles sont dans un combat et elles ont des objectifs. C'est celles-là qu'il faut regarder, c'est celles-là qu'il faut aider.
Moi, je voulais... Pardon.
Oui, je vous en prie, allez-y.
Je voulais juste rebondir par rapport au droit de disposer de son corps, parce que vous venez de dire que nous étions tous et toutes d'accord, féministes que nous sommes, par rapport à cette question. Oui et non, parce que nous militons pour le droit à l'avortement au sein du mouvement Mali. Nous sommes quand même le seul mouvement entièrement pro-choix au Maroc. Et ce qui nous diffère, c'est cette question du droit de disposer de son corps. Je dis pas que les autres mouvements, les autres associations ne pensent pas la même chose, mais ne mettent absolument pas, ou n'osent pas mettre en avant cette question du droit de disposer de son corps, et nous reproche le fait qu'on le mette en avant parce que c'est une conception occidentale.
Votre mouvement Mali, le mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc, hein, vous avez invité en 2012 le bateau de l'avortement d'une ONG néerlandaise après avoir lancé une pétition pour la dépénalisation de l'IVG au Maroc. Hein. En 2009, déjà, vous étiez fait remarquer, on était près de 2 ans avant le printemps arabe, avec votre fameux pique-nique symbolique en plein Ramadan, qui, si je me trompe pas, est passible selon le code pénal de 6 mois d'emprisonnement pour rupture de jeûne en public. Donc voilà, vos positions en faveur de la légalisation de l'IVG. Vous militez aussi pour la légalisation de l'homosexualité. Vous avez organisé en 2013, vous avez un palmarès qui est quand même déjà bien rempli, qui vous d'ailleurs met sur de sombres listes. Vous organisez le premier kiss sur une place à Rabat, hein, où des couples s'embrassaient en public. Vous avez récidivé depuis ou pas?
Récidivé par rapport
par rapport à, à cette action de s'embrasser en public.
Non, mais c'était, ce sont des actions symboliques à chaque fois, donc nous sont rarement des mêmes actions. Et celle-ci, enfin par rapport au kissing, c'était pas parce que deux adolescents de 14 ans avaient été emprisonnés suite à une photo qu'ils avaient postée sur Facebook où ils se faisaient un smack. Donc voilà, donc on a quand même pensé que c'était dramatique et que le Maroc était en plein recul. Et puis donc c'était vraiment symbolique pour pouvoir expliquer que c'était normal de se faire des bisous, que c'était l'amour, que c'était en plus des adolescents, et donc faire passer des messages, parce que vraiment il n'y a pas eu, enfin ces adolescents là n'ont pas eu beaucoup de soutien, ou en tout cas les soutiens étaient passés inaperçus. Donc c'est vrai que nous sommes plutôt dans ce que nos détracteurs appellent de la provocation, mais c'est en lançant les pavés dans la mare, en faisant les actions que l'on fait, les campagnes que nous menons, que les débats en tout cas en général sont grandement ouverts.
Ce mouvement, juste quand même, il faut préciser que ce mouvement, vous l'avez cofondé en 2009, hein, c'était en
exactement.
2009, avec la journaliste Zineb El Razaoui de Charlie Hebdo, qui est une rescapée des attentats, qui est aujourd'hui menacée de mort. Vous, aujourd'hui au Maroc, à quoi ressemble votre vie quotidienne?
Ben, étant donné qu'effectivement je suis la cofondatrice du mouvement et vu les sujets sensibles sur lesquels nous travaillons, sensibles et tabous, très souvent malheureusement incompris, parce qu'au Maroc il y a encore un taux élevé d'analphabétisme, il y a quand même beaucoup de choses, c'est un pays en voie de développement, donc c'est vrai que ce sont des questions avant-gardistes, donc du coup nous sommes souvent très incompris, et étant donné que je suis un peu la porte-parole du mouvement et organisatrice de nombreuses actions et campagnes, il est vrai qu'il est très difficile pour moi de mener une vie facile, puisque je suis reconnue, les gens me suivent, les détracteurs sont bien présents.
Vous
sur
recevez
les réseaux
des
sociaux.
Menaces à l'heure actuelle?
Je reçois régulièrement des menaces, des insultes. Là actuellement, justement, je reçois pas mal de menaces pour deux raisons, parce que je suis passée sur France 24 il y a deux semaines où j'ai parlé de l'alcool dans les pays musulmans, donc un autre tabou, et puis nous avons mené une campagne, ce sont des visuels sur internet sur l'homosexualité, notamment l'homosexualité féminine, et donc du coup le visuel, j'embrasse une jeune fille, et donc voilà, donc ce sont
à chaque
des
fois vous jouez quand même la carte de la provocation. C'est d'ailleurs ce que peuvent vous reprocher certaines intellectuelles féministes, hein, qui ne sont pas du tout là-dessus, qui vous disent en gros que c'est contre-productif. Votre mouvement se démarque aussi des autres organisations de défense des droits humains, parce que vous appelez clairement à une forme de désobéissance civile,
complètement,
hein, pour ne pas dire plus.
C'est un mouvement de désobéissance civile, je le dis, et nous le revendiquons, parce que c'est d'où le nom d'un mouvement alternatif.
Oui. Donc, mais il y a des femmes qui vous disent, vous tirez une balle dans le pied, quoi, grosso modo.
Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai rencontré Betty. Il y a eu un magnifique débat avec donc Jeanne, qui pour elle, Jeanne qui milite dans une association reconnue, qui était voilée, et qui s'est dévoilée en devenant féministe, qui a lu Simone de Beauvoir, qui a dit c'est pas possible, je change de vie, j'enlève mon voile, je milite, je deviens féministe. Et elle, par exemple, même si elle reconnaît la nécessité de ce combat-là, elle va dire que elle a pas envie d'être là-dedans, de montrer le corps, de désexualiser le corps de la femme. Elle comprend pas. Elle dit moi j'étais voilée il y a encore deux ans, donc moi aller embrasser mon amoureux.
Il y a des
amoureux
femmes qui sont aujourd'hui voilées
et qui
militent pour la liberté des femmes.
C'est ce que je voulais dire. Après il y a des femmes qui sont voilées. Justement il y a des féministes voilées qui sont bien plus féministes que certaines autres femmes. Et juste ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant dans les femmes que j'ai rencontrées, c'est qu'il y a à la fois des jeunes femmes comme Betty qui sont dans la provocation, il y a d'autres jeunes femmes qui sont pas dans la provocation, qui travaillent différemment, et il y a aussi des rassemblements. Quand je reviens à ce que vous disiez, c'est qu'est-ce qui les rassemble? Il y a une jeune femme au Maroc qui s'appelle Fédoua, qui a monté un site internet qui s'appelle Candicha, et sur ce site internet, il y a à la fois des témoignages de femmes voilées, féministes, qui revendiquent le port du voile, qui disent je porte le voile mais je défends l'égalité homme-femme, mais je suis militante et c'est possible, et à la fois des femmes comme Betty qui vont dire je suis allée au pique-nique militant du Mali. Et sur ce site internet, il y a tout un mélange. Fédoua est une très bonne amie d'une jeune femme qui est voilée et qui est beaucoup plus dans la discrétion, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui va militer de façon beaucoup plus dans l'ombre. Elle est institutrice, cette jeune femme, elle s'appelle Fatima.
C'est pas forcément un pragmatisme politique, hein. Ce sont d'autres convictions.
D'autres convictions. Et ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Une fois, Jeanne avait expliqué, il y en a certaines qui avancent d'un côté, certaines qui avancent de l'autre. On fait différemment et tout ça nous fait avancer. On peut être voilé, on peut ne pas être voilé, on peut provoquer ou pas. Tout ça fait avancer la cause des femmes.
Bon, alors je voudrais, si vous voulez bien, je voudrais quand même qu'on puisse entendre. Vous vous souvenez, à l'automne dernier, on avait donné la parole à Mona El Taoui, qui a grandi en Égypte, qui est installée aux États-Unis, qui est une des voix féministes, on va dire, dérangeantes du monde arabe. Elle était de passage à Paris pour parler de son livre Foulard et Hymen, pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle. Et c'est un manifeste autobiographique engagé. Réécoutons-la.
I was born in Egypt and when I was 7 we moved to London.
Je suis née en Égypte et quand j'ai eu 7 ans, on est allé vivre à Londres. Le premier choc pour moi est arrivé en Arabie Saoudite. On s'y est installé quand j'avais 15 ans parce que c'était très différent de ce à quoi j'étais habituée. Je suis d'une famille égyptienne musulmane. Mon père et ma mère sont égaux, ils ont tous les deux des PhD et ils nous ont élevés, mes frères et sœurs et moi, en respectant cette égalité. Ça a donc vraiment été un grand choc pour moi de découvrir un pays qui traitait les femmes comme ça, en les forçant à s'asseoir au fond du bus. Les femmes en Arabie Saoudite ne peuvent pas conduire, elles sont traitées comme des enfants. On utilise l'islam contre elles. Ce que j'ai vu en Arabie Saoudite, c'est ce qui m'a poussée à être féministe. L'Égypte et l'Arabie Saoudite m'ont appris une chose, c'est la nécessité de combattre ce mélange toxique entre religion et culture qui profite aux hommes, mais fait du mal aux femmes.
En 2011, quand commence la révolution en Égypte, vous êtes alors aux États-Unis. Comment est-ce que vous avez vécu cette révolution-là? Qu'est-ce que vous y avez fait?
Yes, I went in July to take part in the sit-in because there was a sit-in of several days in Tahrir.
Oui, j'y suis allée en juillet pour prendre part à l'occupation de la place Tahrir, qui a duré plusieurs jours. J'y suis retournée en novembre, toujours en 2011, et c'est là que j'ai participé aux manifestations de la rue Mohamed Mahmoud. C'était 5 jours d'affrontement entre nous, les révolutionnaires, et les services de sécurité. Au moins 40 personnes ont été tuées, plus de 300 blessées. J'en faisais partie. 4 ou 5 policiers anti-émeutes m'ont entourée, ils m'ont frappée avec une matraque. Et j'ai essayé de me protéger la tête avec mes bras, et c'est comme ça que j'ai eu les deux bras cassés. Ensuite, ils m'ont emmenée dans une zone à l'écart, et j'essayais d'enlever leurs mains de mon pantalon, de ma poitrine, partout sur mon corps. 12 autres femmes ont aussi été agressées sexuellement à ce moment-là, de la même manière.
Aujourd'hui, et c'est le cas notamment dans ce livre, vous évoquez la haine des femmes. Vous dites « les hommes nous détestent au Moyen-Orient ». C'est une formule un peu forte, provocatrice. Qu'est-ce que vous entendez par là?
I like to provoke. I think often.
J'aime provoquer. Je pense que souvent, pour bousculer les gens et leur faire voir ce que parfois ils ne veulent pas voir et préfèrent nier, il faut les provoquer.
The revolution has ignored women.
La révolution a ignoré les femmes. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui besoin d'une double révolution, sociale et sexuelle.
So I had been living in the United States for 13 years from 2000, but I moved back to Cairo.
J'ai vécu aux États-Unis pendant 13 ans et je suis revenue vivre au Caire en 2013. C'est un endroit très difficile à vivre en ce moment. Une semaine avant de partir en tournée pour mon livre, j'ai reçu un appel de la sécurité nationale pour me dire « Vous savez, on vous surveille, on garde un œil sur vous, et dès que vous reviendrez au Caire, on le saura. L'aéroport nous informera. »
Est-ce que vous avez reçu des menaces de mort ?
Les seules menaces de mort que j'ai reçues, c'était en 2009, parce que j'ai défendu le journal danois Jyllands Posten qui avait publié des caricatures de Mahomet. Mon livre n'a pas encore été publié en arabe. Pour l'instant, au Moyen-Orient, il ne peut être acheté qu'en anglais. Donc je ne sais pas encore comment les gens vont réagir à mon livre.
Comment votre famille en Égypte voit votre combat?
You know, we've had many arguments about this and that's okay.
On a eu beaucoup de disputes à ce propos, mais ce n'est pas grave. Ils me disent que je ne devrais pas parler autant de sexe, que nous vivons dans une société conservatrice et que ce n'est pas un sujet dont on peut discuter en public. Mais quand j'ai pris la décision de ne plus porter le voile, ça n'a pas plu à ma famille. J'ai fait ce choix à l'âge de 25 ans et ils ont dû l'accepter. C'est très important pour moi d'être au Caire maintenant et de dire « Je suis musulmane, avec des cheveux rouges et des tatouages, et je suis là en tant que féministe. »
Dans votre livre, vous dites, vous écrivez « J'insiste sur le droit que j'ai de critiquer ma culture et ma religion d'une façon que je n'accepterai pas venant d'un étranger. » Est-ce que vous n'êtes pas finalement devenue, vous aussi, une étrangère ?
L'Égypte et ma religion, l'islam, ont fait de moi la femme que je suis. Mais je suis aussi comme ça parce que j'ai vécu à Londres, à Jeddah en Arabie Saoudite et aux États-Unis, à Seattle et New York. Mais pour moi, quand on est privilégié, et pour ma part, j'ai beaucoup de privilèges qui me facilitent la vie. L'éducation, l'indépendance économique, la possibilité de voyager. Je pense que tout cela m'oblige à me battre 10 fois plus fort que les autres pour créer un espace en Égypte dont les autres femmes de mon pays peuvent aussi profiter. Ce n'est pas comme si je leur faisais la morale en leur disant « Vous devez vivre comme ça ». Mais vous savez, j'ai trouvé les livres qui ont fait naître mon féminisme à l'université en Arabie Saoudite. Donc ce n'est pas quelque chose que j'importe de l'Occident.
I recognize that some people from the race racist, xenophobic, islamophobic, political right wing.
C'est vrai que certains au sein de l'aile droite, racistes, xénophobes, islamophobes, vont utiliser mes propos contre les hommes de ma communauté. Mais c'est contre ces deux extrêmes que je me bats. Et c'est pour ça que je me vois comme une féministe de couleur. Aux États-Unis, on parle maintenant de féminisme blanc. Le féminisme blanc combat seulement la misogynie. Et je ne suis pas une femme blanche. Je dois me battre contre le sexisme et contre le racisme.
Voilà, bienvenue dans la planète féministe. Hein. C'est pas toujours simple de s'y retrouver. C'était Mona El-Tahaoui. Comment vous réagissez, Nadia Leïla Aissaoui?
Mais c'est effectivement très complexe. Hein. Il y a plusieurs fronts où il faut se battre, et je crois que elle a bien pointé toutes ces questions-là. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut comment se positionner en tant que féministe pour ne pas justement stigmatiser les hommes d'une communauté et en même temps être au clair avec son combat. Bon, ça c'est des questions qui sont en débat récurrent, mais je voulais revenir moi sur la façon de faire des féministe, quand vous disiez tout à l'heure, vous parliez du pragmatisme, moi je crois qu'il y a une dose de pragmatisme, parce que travaillant beaucoup avec des jeunes filles de ces pays-là, et comme nous donnant des formations féministes en intelligence collective, ces jeunes filles, elles savent très bien comment agir. Elles sont stratèges. Elles ont leurs objectifs en tête, leur horizon. Seulement, elles savent très bien comment il faut avancer petit à petit dans une société qui est à très grande majorité conservatrice. L'approche frontale est sans doute nécessaire, mais pour
revendiqué par Betty
Revend Studio qui a toute sa place, mais à mon avis, en tout cas pour les jeunes filles avec lesquelles on a travaillé et qui sont par exemple pour le cas du Maroc, pour la plupart qui viennent de régions enclavées du Maroc et qui pour elles déjà avoir l'accès, la possibilité d'aller à l'école est une victoire de vie, et d'avoir la possibilité de commercialiser leurs produits et s'organiser, c'est déjà pour elles un combat et une lutte. Donc, je crois qu'il faut de tout, mais en même temps, il faut aussi contextualiser les luttes et y aller doucement mais sûrement. Et des acquis, il y en a eu hein, quand même au niveau des lois pour ce qui est des avancées. Moi, je dis pas que les lois sont contre les femmes en général.
Quoi vous pensez sur les avancées?
Ben, il y a eu des avancées. En Algérie, on a voté des lois contre le harcèlement sexuel alors que c'était un sujet tabou. Ça s'est fait. Oui, mais au Maroc, il y a eu l'abrogation de la loi. Il y a eu le cas de Amina Filali qui s'était suicidée parce qu'on a voulu la marier à son violeur.
Je peux rebondir sur cet article de loi. J'ai beaucoup travaillé dessus. Je veux dire que c'était pas un article de loi qui disait que la jeune fille violée épousait son violeur. C'est l'interprétation du juge et ça continue.
Oui, l'interprétation. Ce que je veux dire, c'est que petit à petit, quand même, les femmes qui s'organisent arrivent à impacter d'une certaine façon, à avancer les lois petit à petit. Bon, la loi sur l'avortement est quand même passée au Maroc, même avec des conditions d'inceste, de viol, vous savez ça.
Bah justement, mais nous sommes le seul mouvement pro-choix parce qu'on est contre ces petites avancées. C'est où toute la liberté? C'est une discrimination par rapport aux autres femmes.
Oui, oui, bien
toutes
entendu.
Nous militons après pour les démarches pour toutes les femmes. Nous trouvons ça scandaleux.
Ou toute la liberté ou rien, c'est ce que vous dites finalement.
En tout cas, c'est scandaleux de dire qu'il y a certaines femmes qui vont avoir accès à l'avortement et pas d'autres. Et de plus, au Maroc, si on dit qu'une femme victime de viol peut avoir accès à l'avortement, c'est hyper compliqué pour une femme d'aller porter plainte et de dire qu'elle a été violée, et de deux, est-ce que ça voudrait dire que toutes les femmes devront aller dire je me suis fait violer, comme ça je peux avorter? Voilà, la question est quand même
non,
très
mais
complexe.
Je crois que oui, c'est complexe, et dans le même temps, je crois que il y a tout un travail d'abord de sensibilisation, de prise de conscience. Nous les jeunes femmes avec lesquelles on travaille en interne pendant les réunions de travail, elles parlent très librement de sexualité, de leurs problèmes, ça n'est pas du tout un tabou, c'est clairement dit et tout. Après la plupart d'entre elles ne connaissent pas leurs droits à ce niveau-là.
Exactement.
Alors, est-ce que on va au front sans que les femmes soient mobilisées? On travaille, nous, beaucoup à la prise de conscience, à la prise de confiance en soi, sur comment on prend la parole, est-ce qu'on connaît nos droits, comment on milite, comment on s'organise entre nous, comment on fait front dans une société qui ne nous entend pas et dans laquelle on est une minorité.
Et où
tout ça, ça doit être pensé.
Est-ce que vous n'êtes pas beaucoup entre intellectuels et en vase clos, finalement? Est-ce qu'il y a des débats avec les hommes? avec des hommes conservateurs, par exemple, dans les médias au Maroc. Est-ce que vous avez l'occasion, vous, Betty, de dialoguer, de débattre plutôt avec des hommes conservateurs dans les médias?
Justement, notre façon de militer au sein de Mali, c'est justement, enfin, c'est ce que je pourrais reprocher à, aux autres associations féministes et aux féministes qui sont mes amis, hein, par ailleurs. C'est que notre façon de justement, quand on provoque, c'est qu'on jette un peu dans la mare, on crée un buzz et le débat est grandement ouvert dans toute la société.
Ouais.
Donc c'est-à-dire quand on veut quelque chose, toutes les actions qu'on a faites, quand on demande à un chauffeur de taxi, quand les femmes vont dans le hammam, quand elles sont chez le coiffeur, quand les gens sont dans leur travail, tout le monde parle de ce qu'on a fait et donc ont conscience qu'il existe, des athées par exemple.
Dans le taxi, etc. D'accord, mais dans un média, dans les radios, est-ce que les hommes acceptent de venir dialoguer avec vous ou est-ce que vous n'avez pas participez pas à rompre le
pas
le
du
débat.
Tout. Justement, nous avons eu dernièrement une émission télé. Bon, c'était dans une école de journalisme, mais en tout cas, elle a été très regardée par à travers la web TV. Et c'était la deuxième porte-parole et moi-même de Mali. Et nous étions face à deux hommes conservateurs.
Moi, je voudrais au-delà de ce débat-là qui est très important. Et donc, où on provoque, où on provoque pas. Je pense que tout le monde a sa place. Mais je pense à un exemple par rapport à ce que disait Nadia. J'ai rencontré Rofran qui habite au Kef, au nord-ouest de Tunis, en Tunisie, et qui milite avec des femmes paysannes. Et j'ai rencontré une femme paysanne voilée qui a une minuscule ferme avec ses parents et qui est en train d'agir pour que ses voisines puissent elles aussi avoir leur exploitation, pour que elle puisse monter un petit magasin pour avoir des produits tout préparés pour les femmes qui travaillent dans la campagne et qui puissent à la fois travailler et passer moins de temps dans la cuisine pour les enfants et la famille. Je crois que cette jeune femme qui s'appelle Sanae, qui est donc qui a 20 ans et qui, je trouve, est d'une force incroyable et qui a déjà une volonté de faire changer les choses, elle est entre Betty et Sanae, il y a un énorme gouffre. Et pourtant, elles travaillent tout aussi fortement. Elles sont tout aussi importantes dans la façon de militer. Je pense qu'elles ont chacune leur place. Je pense aussi à Sonia et Monia, deux ouvrières à Tunis, qui sont absolument incroyables. C'est-à-dire qu'elles travaillent dans une usine de câblage pour avions, une usine française, donc la TECOER, de câblage d'avions pour Dassault. Et elles étaient harcelées sexuellement dans leur travail en tant qu'ouvrières par leur patron qui leur disait « Si tu viens avec moi manger ou boire un verre, peut-être qu'on va t'augmenter. » Elles ont réussi à devenir syndicalistes, à avoir des augmentations. Elles ont été virées après ça. C'est une usine française, hein, je rappelle. Et ben ces filles-là, elles se battent dans l'usine et aussi chez elles, parce que leur père n'est pas content qu'elles militent, ou leur père, leur frère, leur cousin. Et en plus, on leur demande de se marier parce que bon, ça va bien de militer et d'être syndicaliste, mais il faudrait peut-être un peu avancer dans la vie. Voilà, ces femmes-là, elles vont peut-être dire, ben moi les fémines ou moi l'action de Betty, ça me choque et puis je trouve que ça ne fait pas avancer les choses. Et puis j'aime pas parce que quand même, trop
symbolique également.
En même temps, elle avance aussi. Voilà, trop. C'est trop pour elle. Bon, bah, c'est trop pour elle. Pour Betty, c'est pas trop. Pour certaines, Rofran qui est avec les paysannes au Kef, me disait aussi qu'il y avait eu une coupure à un moment des fémines, parce que déjà, c'est difficile que certaines femmes viennent dans les associations d'entraide entre femmes. Et là, avec les fémines, elles associaient fémines et
ce fameux mouvement de femmes qui montrent leur sein,
qui montrent leur sein. D'ailleurs, Amina,
c'est clair que quand on est paysanne ou ouvrière dans une usine, c'est pas ça la priorité.
Et encore, quoique, peut-être pourquoi, parce que Sonia et Monia ou les ouvrières, elles me parlent de révolution sexuelle aussi. Mais c'est plus dans les modes d'action, c'est plus dans la façon de faire. Non, au contraire, c'est aussi une priorité. C'est sauf qu'elle, elle milite pas sur ces questions-là en premier, mais pour elle aussi, elle veut une révolution sexuelle.
On est dans la révolution sexuelle, hein. Ces jeunes filles, quand on discute avec elles, à partir du moment où elles prennent conscience, par exemple, que le viol conjugal existe et qu'elles commencent à le refuser, à le récuser, à les porter plainte, il y a une révolution. Moi, j'ai deux personnes en tête qui nous ont fascinées, en tout cas, au niveau du Fonds pour les femmes en Méditerranée, et j'en aurais plein d'autres, mais je dirais celle-là que nous avons formée, une jeune fille de 18 ans, qui était jamais sortie de son village, qui avait été déscolarisée très tôt, qui était venue, qui avait mené une bataille monstrueuse contre sa famille et son village pour venir à la formation, et une autre qui s'appelle Aïcha, qui était voilée mais révoltée en même temps, qui ont participé à notre formation. Cette Rachida, cette jeune fille, après la formation, elle est rentrée dans son village et elle a organisé un collectif de femmes. Elle est tisserande, elle tisse des tapis. Elle a organisé un collectif de femmes et elles ont monté la Maison des Femmes, un lieu où elles commercialisent leurs propres produits, mais où un lieu où il y a du débat.
Elles envisagent aussi de prendre part aux élections municipales, de se porter candidate. Aïcha également, qui a ôté son voile et qui est maintenant représentée à la municipalité. Je veux dire que petit à petit, ces petites victoires grossissent un mouvement et elles sont enracinées dans leur contexte. Elles sont dans une question, elles ont aucun problème avec leur identité, elles sont très enracinées dans leur contexte, dans leurs croyances, mais elles sont conscientes de leurs droits et de la façon dont elles doivent les réclamer.
Oui, je pense qu'elles ne rejettent pas l'universalité des luttes dont tu parles et que tu revendiques, et en même temps, elles restent ancrées dans leur contexte, ce que tu dis.
Mais aujourd'hui, au-delà des grandes tensions géopolitiques, avec la menace Daesh, de certains reculs aussi sous la pression de partis ou de mouvements islamistes dans certaines sociétés, comment est-ce que vous, toutes les trois, vous voyez l'avenir des droits des femmes dans le monde arabe? Qu'est-ce qui conditionne les avancées, vos espoirs? Ça marchera? Ça avancera à condition de quoi, finalement, pour vous, Betty, féministe plus radicale?
J'insiste sur la révolution sexuelle et je voulais juste préciser, parce que je m'exprime souvent sur ce sujet de révolution sexuelle, et je vois malheureusement que dans le monde arabe c'est très très mal compris. Je vois les messages que je reçois d'insultes et les commentaires des détracteurs. J'ai envie d'être un petit peu crue. C'est que la révolution sexuelle, ce n'est pas une partout géante, quoi. Et donc les personnes ne comprennent pas la révolution sexuelle, c'est justement en faveur de l'émancipation des femmes.
C'est la contestation de prostituées.
C'est la contestation de l'ordre patriarcal. C'est l'évolution de valeurs. Et comme il a été dit, c'est aussi la criminalisation de certaines conduites qui sont le harcèlement sexuel dans l'espace public, dans le travail, qui sont le viol conjugaux, etc. Donc les personnes ne maîtrisent pas, je pense, la définition.
Nadia, Leïla, Aïssaoui, nous reste quelques secondes.
Alors moi je dis que le piège, il est pas seulement dans le religieux. On peut pas analyser une société seulement à travers le prisme du religieux, ce serait
pas. C'est pas ce qu'on a fait d'ailleurs.
Oui, justement. Alors justement, pour la montée du religieux, je crois que.